Bonjour et bienvenue à l'émission des Voix de service magazine, édition du 19 octobre. Monique Kerouac au micro. Et avec moi en studio, Marie Lalande.
Bonjour Monique.
Alors, Yvan Deslauriers n'est pas avec nous ce matin.
Il nous fait faux bon.
Mm-hmm. C'est donc une équipe presque féminine. Je dis presque féminine parce que, bien sûr, de l'autre côté de la console, Mathieu est toujours là, maître des choix musicaux.
Oui.
Invite à nous présenter brièvement les articles que vous lirez aujourd'hui.
Alors, je vais vous parler dans un premier temps de stratégies d'études efficaces. Mm-hmm. Pour mémoriser. Et dans un autre temps, je vais vous parler de direction d'école.
Ah oui.
Donc, de l'importance qu'ils ont et d'une semaine bien spéciale cette semaine pour les directions d'école.
Mm-hmm. Voilà. Et il n'y a pas un troisième article?
En fait, les deux prochains
sont liés avec la direction
qui touchent le travail des directions
d'école. Ouais, voilà. Ce sont des articles complémentaires.
Voilà.
Alors, de mon côté, les trois sujets. Un premier article qui nous révèle des aptitudes et des fonctions inattendues des organes. Mmh. Et je m'attarderai entre autres aux os, le squelette. Un second article qui s'intéresse à des travaux menés sur l'interaction entre l'activité physique et les troubles cognitifs. Mmh. En fait, l'effet positif d'une activité physique sur la prévention ou l'amélioration des troubles cognitifs. Et un dernier article sur, en fait, la sixième disparition ou le sixième drame dans la biodiversité, déclin d'espèces, en fait, en termes de population et de répartition géographique. Alors Marie, allons-y pour le premier article sur les stratégies d'études.
Stratégies d'études efficaces.
Oui, gagnantes.
Parce qu'il y en a qui sont plus efficaces que d'autres.
Oui,
Alors, opter pour des stratégies d'études efficaces, c'est un texte de Anne-Isabelle Lévesque qui a été publié sur le site RIRE, R-I-R-E. C'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. Et ça n'a rien à voir. C'est le réseau d'information pour la réussite éducative. Donc, ça a été publié le 16 octobre. La simple relecture constitue une stratégie de révision utilisée par de nombreux élèves tout au long de leur parcours scolaire. Mais cette méthode est-elle la stratégie la plus efficace? Enseignante, auteure et créatrice du site web Apprendre à éduquer, Caroline Jambon, c'est un site français, j'ajoute, mm-hmm. Caroline Jambon présente 5 stratégies de mémorisation plus efficaces que la relecture simple, qui sont tirées du livre « Mets-toi ça dans la tête ». Je trouve ça très drôle comme mm-hmm. titre. Des auteurs Peter Brown, Henry, et je m'excuse pour la prononciation, Rodiger et Mark McDaniel. Selon ces pionniers de la recherche sur la mémoire et les mécanismes des apprentissages, la simple relecture présente plusieurs côtés négatifs, dont les trois suivants. Elle est coûteuse sur le plan temporel, donc en temps. Mm-hmm. Elle ne favorise pas un apprentissage durable et elle n'entraîne pas les élèves à se remémorer l'information. En fait, ce qui se passe, c'est qu'une familiarité croissante avec un texte et une plus grande aisance dans sa lecture peuvent engendrer l'illusion d'une certaine maîtrise. Mm-hmm. Et dans le fond, ce n'est qu'une illusion.
Oh, mon Dieu.
Les stratégies efficaces de mémorisation proposées par Brown, Rodiger et McDaniel permettent d'effectuer les tâches suivantes. D'abord, s'exercer à se remémorer les nouveaux apprentissages grâce à la réalisation d'auto-évaluation. Alors, ce qu'on incite les gens à faire, mm-hmm. c'est de se construire des auto-évaluations et de se faire des petits tests régulièrement. Mm-hmm. Ensuite, espacer les séances d'entraînement. Donc, c'est connu en apprentissage, plus on espace, on espace les périodes dans les séances d'entraînement et quand on étudie, on prend une période, on fait une période intense de travail et ensuite on entrecoupe ça avec des périodes de repos. Donc, comme l'entraînement par
l'entraînement
intervalle.
Physique.
Voilà.
Hein. Oui.
Ensuite, entremêler l'étude de problèmes de différentes natures pour varier et créer ses propres procédés, trucs et moyens mnémotechniques. On propose des stratégies. D'abord, établir une liste de concepts clés à utiliser à la fin de chaque chapitre pour se tester.
Mm-hmm.
Les définir d'abord et les utiliser. On travaille la compréhension de ce qu'on lit à ce moment-là.
Oui.
Traduire les idées principales du texte en une série de questions auxquelles répondre sans avoir les réponses sous les yeux. Ça peut se faire aussi sous forme de texte troué où on s'entraîne. Reformuler ces idées principales avec des mots personnels, des schémas, des dessins, des métaphores, des images visuelles, des comparaisons, etc. Relier ces idées principales à des choses connues. Parce que apprendre, c'est un processus itératif.
Mm-hmm.
Ça veut dire que c'est une séquence d'instructions qui est destinée à être exécutée plusieurs fois. Ça implique une répétition.
Oui.
Donc, c'est ce processus itératif qui nécessite de mettre les informations à jour en les reliant à de nouvelles connaissances. Et trouver des exemples autres que ceux enseignés. Donc, aller voir dans d'autres contextes, faire des liens, ce qui permet de construire des repères pour faire résonner les nouveaux apprentissages avec ce qui est familier. Alors, on est loin de la simple relecture. On est dans la construction de quelque chose.
On est dans la construction du savoir,
voilà.
En fait, avec un recul,
une
certaine objectivation de ce qu'on est en train d'assimiler.
Et une plus grande maîtrise, c'est
totalement.
Ce qu'on vise.
Oui.
Et on vise à être capable de retrouver cette information-là en mémoire.
Mais c'est tellement différent comme approche.
Ouais.
Ça demande un encadrement de départ assez important.
Et une plus grande rigueur. Oui,
ouais.
Alors les références de Mme Jean, de ce texte-là, 5 stratégies de mémorisation plus efficaces que la relecture simple, ça a été d'abord publié dans le site de Mme Jambon, Apprendre à éduquer, apprendreaeduquer.fr, c'est facile à retrouver. Et le livre « Mets-toi ça dans la tête » de messieurs Brown, Rodiger et McDaniel. Donc, mets-toi ça dans la tête, les stratégies d'apprentissage à la lumière des sciences cognitives. Et ça a été publié très récemment chez Marcus Allaire.
Merci Marie, c'était
plaisir.
Fort intéressant.
En sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout autour de la terre dans un wagon doré. Tout autour de la terre, nous avons rencontré la mer qui se promenait avec tous ses coquillages, ses îles parfumées, puis ses beaux naufrages et ses saumons fumés. Au-dessus de la mer, nous avons rencontré la lune et les étoiles sur un bateau à voile, partant pour le Japon. Et les trois mousquetaires des cinq doigts de la main, tournant la manivelle d'un petit sous-marin, plongeant au fond des mers pour chercher des oursins. Revenant sur la terre, nous avons rencontré sur la voie d'un chemin de fer une maison qui fuyait, fuyait tout autour de la terre, fuyait tout autour de la mer, fuyait devant l'hiver qui voulait l'attraper. Mais nous, sur notre chemin de fer, on s'est mis à rouler, rouler derrière l'hiver, et on l'a écrasé, la maison s'est arrêtée et le printemps nous a salués. C'était lui le garde-barrière, et il nous a bien remerciés. Et toutes les fleurs de toute la terre soudain se sont mises à pousser, pousser à tort et à travers sur la voie du chemin de fer qui ne voulait plus avancer de peur de les abîmer. Alors on est revenu à pied. À pied tout autour de la terre, à pied autour de la mer, tout autour du soleil, de la lune et des étoiles. À pied, à cheval, en voiture et en bateau à voile.
On a tous reconnu Yves Montand et sa chanson en sortant de l'école.
Oups. Alors, c'est à mon tour. Donc, un article pour Science et Vie du mois d'août 2017, un article d'Alexandre Pienne intitulé « La vie secrète de nos organes ».
Alors, une vie secrète.
Oui, tout à fait. Vous allez voir. Cœur, foie, poumon, cerveau. On croyait bien connaître nos organes. Erreur, car voici qu'il dévoile des aptitudes insoupçonnées et des fonctions totalement inattendues, cette liaison très dangereuse. Qui imaginait que notre foie se transforme la nuit? En fait, il grossit. Que nos yeux donnent l'heure. Que nos os sont connectés à notre mémoire. Autant de découvertes qui montrent que nos organes cachent d'incroyables super-pouvoirs, lesquels éclairent, surtout d'un jour nouveau, le fonctionnement de notre corps tout entier. Alors, on va s'intéresser plus spécifiquement, comme je le disais, au squelette. Mm-hmm. Alors, parce qu'il détient justement la clé de notre mémoire. Une simple charpente, voilà à quoi le squelette est souvent réduit. Tout au plus, lui reconnaît-on un rôle de réservoir de calcium pour le fonctionnement des cellules. Or, depuis une dizaine d'années, se révèle aux chercheurs la vraie nature de cet organe qui, de découverte en découverte, décroche aujourd'hui l'un des premiers rôles dans une longue liste de fonctions inattendues. Reproduction, alimentation, mémorisation. Il met son grain de sel partout. Il y a des termes qui vont être un peu plus techniques, mais je pense qu'on peut saisir l'essence tout de même. Donc, le Français Gérard Carcentier a été le premier scientifique à deviner que notre squelette n'est pas une armature inerte. Développement au département de l'Université de Columbia à New York, il mène des études sur la calcification de l'os. Pour les besoins de ses expériences, l'équipe fait naître une souris qui ne produit pas d'ostéocalcine, une petite molécule uniquement produite par des cellules de l'os, les ostéoblastes. Pour Gérard Carcentier, l'ostéocalcine doit forcément jouer un rôle dans la minéralisation osseuse. Or, les os des souris nées dans le laboratoire sont tout à fait normaux. Mais en ouvrant, non pas les os, mais les souris, les chercheurs observent la présence de tissus adipeux autour de l'abdomen, donc des tissus avec du gras. Mm-hmm. Autre bizarrerie, lorsqu'ils tentent de les faire se reproduire, il ne se passe rien.
Ah bon?
Donc, l'ostéocalcine ne se contente pas du rôle de charpentier, c'est une hormone produite par les os. La preuve, elle circule dans le sang, est produite par un seul type de cellule, et affecte différents tissus, adipeux et reproducteurs. Gérard Carcentier avance alors la thèse d'une régulation hormonale qui coordonnerait la croissance des os, le métabolisme et les fonctions sexuelles. Dans la communauté scientifique, tout le monde trouvait cela très poétique, mais totalement farfelu. Au milieu des années 2000, plus personne ne sourit. Par accident, nous avons généré des souris auxquelles il manquait une autre molécule produite par les ostéoblastes. Or, les sourisseaux examinés n'avaient pas du tout de tissu adipeux. Totalement l'inverse de souris sans ostéocalcine, rappelle le spécialiste. C'est là que tout a redémarré. Peu à peu, le rôle de cette nouvelle hormone dans la régulation des fonctions vitales se fait jour. Masse, métabolisme en amont de l'insuline, fertilité masculine en amont de la testostérone, fonction musculaire et même la mémoire. En effet, les souris sans ostéocalcine étaient particulièrement dociles, ce qui nous a amené à étudier la fonction de cette hormone dans le cerveau. Se souvient Monsieur Carcenti. Mm-hmm. En 2013, l'équipe prouve qu'en supprimant le gène responsable de la production d'ostéocalcine chez les souris, celles qui naissent de mères homozygotes, c'est-à-dire présentant les deux mêmes versions de ce gène, n'ont aucune mémoire et qu'elles sont en plus diabétiques. Aucun gène exprimé dans le cerveau n'a une telle influence sur la mémoire, résume le chercheur. L'os responsable de la mémoire, l'idée laisse sans voix. Mmh. Mais pour le chercheur, il n'existe aucune discontinuité entre les fonctions ambulatoires et endocriniennes de l'os, toutes deux liées à la survie. La mémoire existe pour se rappeler où était le prédateur ce matin et où était la nourriture hier soir. Mais si vous ne pouvez pas courir parce que les muscles ne peuvent pas grossir sur vos os, ce ne sera pas une bonne journée non plus.
Non, ça ne sera pas utile.
Ça ne sera pas utile. Donc, en mars, un nouveau pavé dans la mare bouscule la communauté des spécialistes du squelette en démontrant le rôle de l'os dans la régulation de l'appétit.
Ah bon?
Un quart d'heure après la prise d'un repas, les ostéoblastes libèrent très rapidement une autre hormone, la lipocaline 2, agissant sur les voies anorexigènes pour réduire la prise alimentaire. Donc, vous pouvez constater que l'os n'a pas fini de nous surprendre, mais de nous faire marcher. C'était donc un article de Madame Alexandra Pienne pour la revue Science et Vie du mois d'août 2017.
T'arrives-t-il d'enrager? T'arrives-t-il d'enrager quand une voix oublie tout ce que l'on a de gagné? T'arrives-t-il de pleurer? T'arrives-t-il de pleurer quand une voix oublie ton nom sur l'échafaud? Quand une voix oublie ton nom.
Rosie Vallant et sa chanson Olympe.
Merci Mathieu. Alors Marie, vous enchaînez avec un premier article sur, je dis un premier parce qu'il y en a un deuxième, qui s'intéresse aux directions d'école.
Oui. Alors le premier, les pratiques des directions d'école influencent la réussite des élèves. C'est un texte de Bruno Hébert, en fait, qui est tiré d'une étude qui a été faite par Pierre Collerette, qui est professeur associé à l'Université du Québec en Outaouais, Daniel Pelletier, qui lui est professeur à l'Université du Québec en Outaouais, et Gilles Turcotte, qui est consultant. Et donc, ce texte de Bruno Hébert a été publié sur le site RIRE, la même source que celui de tout à l'heure. Il date, par contre, ça a été publié le 31 octobre 2013, mais c'est encore tout à fait actuel. Et vous comprendrez, en deuxième partie d'émission, pourquoi je suis allée chercher ce texte-là.
D'accord.
Alors, il est bien connu que la réussite éducative est souvent associée à l'origine socio-économique des élèves. Mais des études ont aussi montré que des écoles de milieux défavorisés peuvent obtenir des taux de réussite comparables à celles de milieux plus favorisés. En fait, la défavorisation sociale constituerait davantage un facteur de risque qui peut être rééquilibré, et c'est ce qui est important, par les pratiques en vigueur dans l'école. Il est clair que les pratiques des enseignants sont particulièrement importantes pour faire la différence. Mais la contribution de la direction d'école serait loin d'être négligeable, notamment par son influence sur les enseignants, justement. Selon certaines études, les directions d'école pourraient avoir une influence déterminante sur la réussite des élèves. Pour voir si ces observations s'appliquent au contexte québécois, les auteurs de l'article ont réalisé entre 2009 et 2012 une étude dans 6 écoles secondaires des commissions scolaires de la région de Sherbrooke et des Hauts-Cantons. Les résultats en français et en mathématiques des élèves, de même que leur décrochage et leur absentéisme, ont été mis en relation avec une variété de perceptions des élèves, des directions et des professionnels des services complémentaires en vue d'identifier des pratiques associées à une plus grande réussite. Je vous en donne quelques exemples, pas tous, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Il y en a 25, c'était les plus importants, ceux-là. Alors, quelques-uns. Par exemple, la direction, on parle de pratique qui favorise la réussite des élèves. La direction met beaucoup d'énergie à instaurer un milieu de vie agréable pour les élèves. Ou bien encore, elle communique efficacement avec les élèves, où elle fait preuve de cohérence dans la gestion des comportements des élèves, ou encore la direction fait des visites de classe, où elle met beaucoup d'énergie à suivre les résultats des élèves. Alors, on revient au texte maintenant. On observe que plusieurs de ces pratiques portent sur le fonctionnement de l'école, entre autres sur l'encadrement des élèves et du personnel. On remarque aussi l'importance d'un milieu de vie propice à l'apprentissage pour les élèves, un aspect qui ressort plus encore que l'implication de la direction au niveau pédagogique. Les variables ont été regroupées en catégories et leur analyse a mis en relief les constats suivants. Les deux pratiques des directions qui ont l'impact positif le plus important sur les résultats scolaires des élèves sont une centration sur l'encadrement des comportements, ainsi qu'un effort pour favoriser de bonnes relations et de bonnes communications avec les élèves dans l'école. Ainsi, l'instauration d'un milieu perçu par les élèves comme sécuritaire et respectueux contribuerait à des résultats scolaires plus élevés. Les pratiques qui ont l'impact le plus important sur la réduction des échecs sont celles axées sur la performance des élèves ou le suivi de leurs résultats. Ainsi, un suivi et un encadrement rigoureux des élèves profiteront plus spécialement aux élèves à risque d'échec. Les pratiques ayant le plus d'impact positif sur l'absentéisme maintenant sont une centration sur l'encadrement des comportements ainsi qu'un effort pour favoriser de bonnes relations et communication avec les élèves. Encore une fois, la présence d'un milieu où l'élève se sent respecté et accueilli, mais aussi encadré, tendrait à réduire l'absentéisme. Ainsi, mettre l'accent sur l'encadrement des comportements dans l'école et sur la relation avec les élèves produit un effet marqué à la fois sur les résultats scolaires, sur la réduction des échecs et sur la diminution de l'absentéisme. Par ailleurs, mettre un accent important sur la performance des élèves a surtout pour effet de contribuer à la réduction des échecs et de l'absentéisme, on s'en doute bien. L'étude n'a pas révélé de lien en particulier avec la réussite des élèves lorsque la direction met un accent prononcé sur le cadre de travail du personnel enseignant. Par contre, quand elle met un accent prononcé sur l'instauration dans l'école d'un climat harmonieux, teinté de respect pour les élèves, c'est là qu'on observe l'effet le plus important sur les résultats académiques des élèves. En outre, lorsqu'elle met un accent prononcé sur la pédagogie et le suivi des résultats des élèves, on observe un lien significativement positif avec les résultats scolaires et avec la réduction de l'échec scolaire. C'est intéressant de noter que lorsque le personnel enseignant semble accorder davantage d'attention à ses pratiques pédagogiques et au suivi des résultats des élèves, plutôt qu'à son cadre de travail, on observe un lien positif avec les résultats scolaires et moins d'échecs. Alors, en conclusion, la liste des pratiques, attitudes et caractéristiques décrites ne constitue pas une formule standardisée à suivre pas à pas. Il s'agit plutôt d'une série de façons de faire souhaitables dont une direction peut s'inspirer pour élaborer l'approche convenant le mieux à son école. Et il n'y a pas une formule unique applicable partout, mais bon, on essaie de s'inspirer de ça. Voilà.
Merci beaucoup, Marie.
Plaisir.
Alors, Voix de service se poursuit après la pause, toujours en compagnie de Marie Lalande, Monique Héroac et Mathieu, bien sûr. Alors, chers auditeurs, ne nous quittez pas, revenez-nous.
Se séparer, à brûler nos ailes, se retrouver comme les hirondelles. On va s'aimer, tellement tu es belle. On va jeter les clés de la maison. On va rêver à d'autres saisons. On va quitter ces murs de prison. On va s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller. Au fond d'un train ou dans un vieux grenier, je veux découvrir ton visage où l'amour est né. On va s'aimer dans un avion sur le pont d'un bateau. On va s'aimer à se brûler la peau, à s'envoler toujours, toujours plus haut, où l'amour est beau. Oh, oh, oh.
Au cœur des banquises,
se murmurer
toutes ces bêtises.
On va s'aimer,
j'aime que tu me dises.
On va partir au bout d'une île pour découvrir la vie fragile. Se découvrir amoureux encore. On va s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller. Au fond d'un train ou dans un vieux grenier, je veux découvrir ton visage où l'amour est né. On va s'aimer dans un avion sur le pont d'un bateau. On va s'aimer à se brûler la peau, à s'envoler toujours, toujours plus haut, où l'amour est beau. On va s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller. Au fond d'un train ou dans un vieux grenier, je veux découvrir ton visage où l'amour est né. On va s'aimer dans un avion sur le pont d'un bateau. On va s'aimer à se brûler la peau, à s'envoler toujours, toujours plus haut.
The Last Finger, la chanson « On va s'aimer ».
Merci Mathieu. Alors, je poursuis avec un article de Dominique Nancy pour le journal Forum de l'Université de Montréal du 25 mai 2017. Alors, il s'intitule, le sédentaire court à sa perte. Alors, ascenseur, tapis roulant, voiture, bus, métro… Tout est à notre disposition pour nous faire gagner du temps dans nos déplacements. Et avec l'avènement des loisirs sédentaires, nos dépenses énergétiques et efforts musculaires diminuent sans cesse. Alors, nouvellement recruté par le département de médecine de l'Université de Montréal et l'Institut de cardiologie de Montréal, l'ICM, le chercheur Louis Bérère vient de se voir confier la chaire de recherche Mirella et Lino Saputo en santé cardiovasculaire et prévention des troubles cognitifs de l'Université de Montréal, et ce, à l'Institut de cardiologie. Louis Bérère aménagera prochainement son laboratoire de recherche au centre EPIC de l'ICM. Oui. Donc, on a différents intervenants, on voit là la cartographie. Mm-hmm. Reconnu pour son leadership international dans le traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, c'est le centre EPIC.
Je m'entraîne régulièrement.
Ben, ouais. C'est très bien. Peut-être pourras-tu être cobaye de cette recherche. Oui. Il poursuivra ses travaux sur les interactions entre la santé cérébrale et l'exercice. Le programme de la chaire de recherche vise une détection plus précoce et une prise en charge de troubles cognitifs associés aux maladies cardiaques, vasculaires et cardio-métaboliques. Et sur ce point, le professeur Bérère est formel. Notre santé mentale est fragilisée par l'inactivité. Il étudie donc le phénomène depuis une dizaine d'années. Il rappelle qu'en étant trop sédentaire, on accroît le risque de souffrir de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2 et de la maladie d'Alzheimer. La bonne nouvelle, le risque diminue avec l'activité physique. Par exemple, on peut réduire le risque de démence jusqu'à 30 %.
Et c'est énorme.
C'est énorme. C'est justement dans mon texte, Marie. C'est énorme. Il n'y a à ce jour aucun médicament aussi puissant. Mm-hmm. Plusieurs chercheurs ont parlé des bienfaits de l'exercice. On a lu des articles et même Yvan s'y est intéressé.
C'est sa spécialité.
C'est ça. Et confirmer ce qu'on savait déjà. La pratique d'activité physique fait du bien. Mais l'équipe du professeur Bérère est l'une des premières à avoir démontré que l'exercice pratiqué de façon régulière a un effet bénéfique sur la cognition des personnes âgées. Elles sont rajeunies, observe M. Bérère. Leurs résultats dans certaines tâches sont comparables à ceux de jeunes personnes. Mais une activité d'intensité plus grande comporte-t-elle un avantage supplémentaire? Combien d'exercices faut-il faire par jour pour qu'il y ait un effet direct sur le cerveau? Doit-on courir ou simplement marcher? L'entraînement doit-il être intensif? Si oui, quelle est l'intensité optimale? Quel est l'effet de l'exercice lorsque celui-ci est variable dans le temps? Voilà autant de questions sur lesquelles la chaire de recherche du professeur Bérère se penchera. De nos jours, on vit plus longtemps, mais l'espérance de vie en bonne santé ne s'accroît pas aussi rapidement. Avec le vieillissement accéléré de la population et l'espérance de vie actuelle qui va au-delà de 80 ans, de plus en plus de gens souffriront de troubles cognitifs, sauf s'ils se mettent à faire de l'exercice.
Et voilà.
Donc, ce neuropsychologue de formation tente avec ses travaux d'intervenir en amont, soit 10 ou 15 ans avant que les individus manifestent des troubles cognitifs. L'objectif, déceler un éventuel déclin cognitif caractéristique de l'apparition d'un trouble. J'ai un intérêt clinique pour la conception d'outils de dépistage plus sophistiqués afin de pouvoir faire des interventions préventives, signale le chercheur. Un meilleur contrôle des maladies cardiovasculaires et métaboliques, ainsi qu'un style de vie impliquant la stimulation cognitive, l'activité physique et la prise en charge des facteurs psychosociaux pourraient aider ainsi à réduire les risques de troubles cognitifs et de démence. Dans son laboratoire de recherche, les personnes âgées ne font pas que des exercices donc d'aérobie et de musculation. Le chercheur convie aussi les sujets à un entraînement cognitif informatique à partir de programmes sur ordinateur ou tablette électronique. À son avis, les exercices de cognition sont favorables aux aînés, qu'ils soient en santé ou non. Il n'y a pas d'âge pour apprendre, suggérant qu'il est possible de stimuler le cerveau compte tenu de sa plasticité, c'est-à-dire de sa capacité de créer de nouvelles connexions selon les apprentissages, même après 65 ans. Mm-hmm. Donc, selon le professeur Bérère, le caractère convivial des technologies numériques faciliterait la pratique des exercices de cognition, mais elles ne peuvent à elles seules renverser les effets du vieillissement. Associé, encore une fois, à des activités physiques, l'entraînement cognitif peut toutefois favoriser l'amélioration des capacités intellectuelles, comme la mémoire et le traitement de l'information, voire le recouvrement de certaines fonctions. Son laboratoire est l'un des rares à combiner les deux types d'entraînement. Mmh. C'était donc un article de Dominique Nancy pour le journal Forum de l'Université de Montréal du 25 mai 2017.
Je vous ai parlé de l'importance de la pratique des directions d'établissement dans la réussite des élèves. Mm-hmm. J'arrive avec cet autre texte et qui s'intitule « Une semaine festive dans le milieu de l'éducation ». C'est un texte de la presse canadienne, il n'y avait pas d'auteur spécifié. Et ça a été publié sur le site de l'Actualité le 15 octobre, donc au début de la semaine. L'heure est à la réjouissance pour la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement depuis lundi, parce que jusqu'à demain, vendredi, cette organisation souligne les avancées que ses membres ont pu enregistrer dans la foulée de l'adoption du projet de loi 105 portant sur l'instruction publique à l'Assemblée nationale l'an dernier. Durant la semaine des directions d'établissements scolaires, parce que c'est maintenant la semaine des directions d'établissements scolaires, la Fédération a renforcé sa présence dans les médias, notamment pour faire savoir au grand public que grâce à cette pièce législative, les directeurs d'école ont désormais la possibilité de siéger au sein d'un comité de répartition des ressources des commissions scolaires. Selon la présidente de la Fédération, Lorraine Normand-Charbonneau, il s'agit là d'un gain notable, car ces acteurs se retrouvent ainsi au cœur de la prise de décision concernant les sommes d'argent que le gouvernement envoie dans les écoles. Mm-hmm. Mme Normand-Charbonneau a soutenu que le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, M. Sébastien Proulx, a reconnu l'importance des directions d'école dans la réussite des élèves en consentant à jouer dans les pratiques de gestion des commissions scolaires. D'après elle, M. Proulx a su faire en sorte que les décisions puissent être prises près des élèves, accroissant par la même occasion leurs chances de réussir. Par ailleurs, Lorraine Normand-Charbonneau a précisé que désormais, les écoles reçoivent directement des fonds alloués par Québec. Donc, pas d'abord envoyés aux commissions scolaires et ensuite répartis aux écoles. Ainsi, les directions de ces établissements ont les coups des franches pour gérer ces sommes comme elles l'entendent. pardon, elles peuvent donc, pardon, un chat ici dans cette gorge,
ben oui.
Elles peuvent donc mettre en place des services répondant aux besoins spécifiques dans chacune des écoles, a noté Mme Normand Charbonneau. La Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement compte environ 1875 membres. Ces derniers sont à la tête d'écoles primaires et secondaires, ainsi que de centres de formation générale des adultes et de centres de formation professionnelle. J'ajoute quelques mots plus personnels, cette fois pour dire toute mon admiration pour mes collègues directeurs, directrices d'établissements. Entre les demandes de parents inquiets, dépassés, parfois en colère, les questions et les projets d'enseignants, d'enseignantes engagés, le personnel non enseignant à valoriser aussi, les élèves à rencontrer, suivre, accompagner, les directives de la commission scolaire et les politiques ministérielles à faire appliquer, les documents officiels à rédiger, ceux à signer, la pédagogie à faire vivre et le leadership pédagogique à exercer. Je sais que cette phrase est trop longue, hein, mais c'est à l'image de cette job de fou. J'en profite donc pour leur souhaiter une bonne semaine des directions d'établissements scolaires.
Alors, on passe dans un autre univers, on s'en va dans la nature. Un article intitulé « Alerte rouge sur la biodiversité », c'est sous la plume de Bérénice Robert pour la revue « La Recherche » de septembre 2017. Alors, on évoque la sixième extinction de masse. Alors, la biodiversité est en train de subir un anéantissement biologique. Tel est le constat alarmant de Gerardo Ceballos de l'Université nationale autonome du Mexique et de ses collègues Paul Ehrlich et Rodolfo Dirzo de l'Université Stanford aux États-Unis. Dans une étude parue dans PNAS début juillet, ils ont en effet établi que parmi un échantillon de 27 600 espèces de vertébrés étudiées, 32% déclinaient aussi bien en termes de population que d'aire de répartition géographique. C'est très important, cette notion d'aire de répartition géographique. C'est peut-être encore plus dramatique que la diminution de la population. En se penchant sur les cas de 177 espèces de mammifères pour lesquelles ils disposaient de données plus détaillées, ils ont découvert une situation encore plus préoccupante. J'en perds le souffle. Toutes ont perdu 30% ou plus de leur aire de répartition et plus de 40% d'entre elles ont subi des pertes de population supérieures à 80%.
Donc, ça veut dire que le nombre diminue
et
l'espace qu'ils occupent diminue aussi aux dépens de ce que les humains occupent, j'imagine.
Oui.
Voilà.
C'est un punch que j'aurai à la fin, Marie.
Oh non!
Mais c'est pas grave.
On va faire comme si.
On le répétera.
Oui, c'est ça.
La magnitude de ce déclin nous a beaucoup surpris, commente Gerardo Ceballos. Je me disais que si l'on trouvait que 10% des espèces déclinaient, ce serait vraiment mauvais. Mais plus de 30%, cela représente vraiment un anéantissement. Pour obtenir ce résultat, les auteurs ont utiliser les données de 2015 de la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN. Créée en 1964 et régulièrement mise à jour, elle suit l'évolution de la biodiversité et recense les espèces en déclin. Pour les 177 espèces de mammifères étudiées en détail, ils se sont aussi servis de données historiques remontant jusqu'à 1900. Ils ont ensuite analysé la magnitude des pertes de population en divisant la surface terrestre émergée en zone de 10 000 km². Cela leur a permis de découvrir, par exemple, que le lion d'Afrique a perdu, depuis 1993, 43% de sa population. Et cette perte ne concerne pas seulement les espèces classées en danger par l'UICN. Environ 30% des espèces communes, considérées comme préoccupations mineures, sont aussi marquées par cette tendance. Les résultats de cette étude ne sont pas étonnants pour les spécialistes de la conservation, mais elles n'en restent pas moins importantes, car nous avons toujours besoin de ce genre d'études qui nous démontrent, quel que soit l'angle pris, on trouve toujours une crise de la biodiversité catastrophique. Une limite, cependant, ce travail ne concerne que les vertébrés. Le cas des plantes, des champignons, des micro-organismes et des invertébrés n'est pas étudié. Pour autant, cela ne signifie pas que les 99% restants de la diversité, en particulier les invertébrés, s'en sortent mieux. C'est quand même un petit peu angoissant.
Oui, c'est un peu inquiétant, vraiment.
C'est un petit peu inquiétant.
Oui.
Donc, une étude et les avis des experts sont remarquablement concordants. Nous obtenons une proportion de 7% d'espèces qui ont déjà disparu au cours des dernières décennies, soit beaucoup plus que ce qui est recensé par l'UICN. La situation des invertébrés est donc aussi critique que celle des vertébrés, peut-être même plus. La plupart d'entre eux ont en effet des exigences écologiques très strictes.
Parce qu'on parle d'espèces très particulières, oui, qui vivent dans des endroits très particuliers.
C'est ça. Moins médiatiques, mm-hmm, que le lion africain ou les girafes, mm-hmm, les invertébrés vivent une extinction silencieuse, car moins de personnes ne s'en préoccupent. Cette extinction n'est pas un phénomène inédit. La Terre a connu 5 crises majeures par le passé. En introduction, je disais qu'on en était à la sixième, mais 2 éléments en font la particularité. Le fait qu'elle soit causée par une seule espèce.
Mm-hmm. C'est nous.
C'est nous.
Mm-hmm.
L'espèce humaine. Et sa rapidité. La crise la plus courte jusqu'à présent, là aussi, ça nous coupe le souffle, avait quand même duré 1 million d'années. Aujourd'hui, il suffit de quelques décennies pour obtenir le même résultat, indique Bruno David, président du Muséum national d'histoire naturelle. Le jeu de l'évolution a voulu qu'Homo sapiens soit un succès évolutif et a, en quelque sorte, causé cette crise, ajoute-t-il. Mais l'évolution nous a aussi donné la conscience de nos actes et la possibilité d'y remédier.
Alors, il y a de l'espoir.
Ben,
à condition qu'on s'y attache.
Oui. Oui. Pour Alexandre Robert, une prise de conscience, mmh, est ainsi nécessaire, car aucune action ne peut être menée si la société n'y est pas prête.
Mmh.
Tout le monde peut comprendre que lorsqu'on détruit un habitat, pensons à la forêt de l'Amazonie,
oui,
les populations animales et végétales qui y vivent disparaissent. Ce qui est compliqué, c'est d'arrêter de détruire les habitats. Alors, s'il vous plaît, prenons conscience tous et chacun de ce drame,
oui,
et remercions Bérénice Robert pour la revue La Recherche de septembre 2017 d'avoir porté cette triste réalité à notre attention.
J'ai un petit chien, il s'appelle Reviens. J'ai un petit chat, il s'appelle Parpa. J'ai un koala, il s'appelle Reste avec moi. J'ai un caméléon, je l'appelle par ton nom. J'ai un bonobo, je l'appelle comme ton numéro. J'ai un crocodile, je l'appelle comme ton mobile. Depuis que tu es parti, je perds les pédales, j'ai besoin de chaleur animale pour tout oublier. Pendant mes insomnies, je me suis procuré des animaux de compagnie. J'ai une souris, elle s'appelle, je t'en supplie. Et un épagneul, il s'appelle, me laisse pas seul. J'ai un lapin, il s'appelle, j'y comprends rien. Depuis que tu es parti, je perds les pédales, j'ai besoin de chaleur animale pour t'oublier. Pendant mes insomnies, je me suis procuré des animaux de compagnie. J'ai besoin de chaleur animale pour t'oublier. Pendant mes insomnies, je me suis procuré des animaux de compagnie. J'ai une gazelle, elle s'appelle, faut pas que je t'appelle. Et un perroquet qui me le répète sans arrêt. J'ai un éléphanto, il s'appelle Faux, que j'arrête avec les animaux.
La chanson Les animaux de Thomas Jensen.
Merci Mathieu, encore un choix très judicieux. Mm-hmm. Marie, un petit mot d'enfant.
Un petit mot d'enfant pour nous mettre de bonne humeur. Selon Abdelrahman, qui a 8 ans, les Caraïbes, dans cette mer, baignent les lentilles françaises.
Bon, alors continuons en lien avec la biodiversité. Je vous parle de l'ours blanc qui se met à manger des poissons.
Ah bon?
Oui, c'est ça. Des oiseaux, pardon, plutôt que des poissons. Alors, sous l'effet du réchauffement arctique, les ours blancs semblent se détourner des phoques qui constituent la base de leur alimentation. Leur nouvelle cible, les colonies côtières d'oiseaux, dont ils se mettent à dévorer les os et les œufs et les poussins. Le phénomène a été mis en évidence par une équipe norvégienne qui a suivi une soixantaine de spécimens dans l'archipel de Spitzer. Alors, avec la disparition brutale de la glace de mer, les chercheurs constatent que depuis cette date, les plantigrades délaissent les embouchures des fjords où l'absence de glace se fait et qu'ils ne parviennent plus à attraper les phoques. Alors, ils se mettent à piller les colonies d'oiseaux. Il n'y a pas encore de preuves scientifiques que ce transfert alimentaire nuise aux ours blancs, mais son impact sur les oiseaux pourrait être sérieux. Mmh. En effet, la plupart de ces volatiles sont des migrateurs. Ah. Donc, la raréfaction aurait des conséquences sur d'autres écosystèmes, parfois lointains. Mmh.
Alors, quoi faire en fin de semaine? Harry Potter, le film concert, c'est un concept de plus en plus populaire, une projection sur écran géant d'un film culte en présence d'un orchestre qui joue en direct la partition musicale et originale. On pense à Back to the Future, Amadeus, Gladiator, E.T., blablabla. Après une première projection l'an dernier du premier volet de la série, Harry Potter à l'école des sorciers, le producteur torontois Attila Glatz poursuit sa série avec Harry Potter et la Chambre des secrets, accompagné d'un orchestre complet qui interprétera la musique de John Williams. Le deuxième volet de la série, sorti en salle il y a déjà 15 ans, dans lequel Harry, Ron et Hermione tentent de sauver Poudlard, sera projeté sur un écran de 40 pieds, tandis que l'orchestre, formé d'environ 85 musiciens, sera dirigé par la chef Sarah X. C'est à la salle Wilfrid Pelletier, la Place des Arts, 21-22 octobre.
Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute et merci Marie du choix de vos articles. Pour ma part, on se retrouve dans 3 semaines.
Oui.
Je vous laisse entre les bonnes mains de Marie et Yvan.